Alors, imaginez-vous, vous êtes un jeune homme né à Jérusalem dans le 1er siècle et votre mère est une juive assez aisée. Elle a une maison à Jérusalem où les premiers disciples du Christ ont l'habitude de se réunir pour rendre un culte à Dieu, pour entendre l'enseignement des apôtres, pour prier ensemble. Mais ce soir-là, l'heure est vraiment grave. L'Église est en danger parce que les chrétiens sont persécutés. Jacques, le frère de l'apôtre Jean, vient même d'être exécuté. Et maintenant, c'est Pierre qui est en prison. Et sûrement, il va lui arriver la même chose. Alors, tous les premiers chrétiens se sont réunis chez votre mère pour prier dans cette situation. Et voilà que quelqu'un frappe à la porte. Et personne n'en croit ses yeux, mais c'est Pierre lui-même, en chair et en os. Il vient d'être libéré miraculeusement de prison. Alors il se met à expliquer comment Dieu l'a libéré. Et vous, vous avez envie d'en savoir plus. Vous avez envie de tout savoir de ce Pierre, de cette personne qui a vécu avec Jésus, qui était là quand il enseignait, quand il priait. Alors vous vous mettez à suivre Pierre et vous devenez son fils spirituel. Plus tard, vous partez avec Paul pour prêcher vous aussi l'évangile, annoncer la bonne nouvelle. Et vers l'an 60, donc 30 ans après le départ de Christ à peu près, vous vous trouvez à Rome désormais. Et vous continuez à raconter les témoignages que Pierre vous a laissés sur la vie de Jésus. Et les Romains ont une très bonne idée, parce qu'ils ont envie d'en savoir plus aussi sur ce Jésus. Et ils vous demandent de mettre par écrit tout ce que vous savez. Et voilà comment est rédigé le tout premier évangile, le tout premier récit écrit de la vie du Christ. Les faits et gestes que vous mettez par écrit, vous les connaissez par cœur. Pierre vous les a répétés des dizaines de fois. Ce que vous allez écrire, ce sont des événements uniques, jusque dans les détails, certains détails que seulement Pierre a vus. Pierre a vu par exemple la tristesse dans le regard de Jésus lorsqu'il voyait ses adversaires. Il a vu aussi l'amour dans ses yeux lorsqu'il voyait un jeune homme riche qui venait le voir. Pierre a entendu les soupirs du Seigneur. Il l'a vu entouré de ses bras, les enfants qui venaient à lui. Pierre a vécu lui-même la crainte des disciples qui allaient à Jérusalem lorsqu'ils suivaient Jésus qui y montait pour la dernière fois. Ce que nous raconte le livre que nous commençons ce matin, c'est vraiment un témoignage unique. L'évangile de Marc, fils de Marie, qui accueillait les premiers chrétiens dans sa maison, comme on le voit en Actes 12, verset 12, Marc que Pierre appelle son fils, en 1 Pierre 5, verset 13, Marc a écrit son évangile pour mettre en relief la gloire et la grandeur divine de la personne de Jésus-Christ et produire l'étonnement et l'admiration. Alors je vous invite à lire ensemble Marc, chapitre 1, et nous lirons ce matin les versets 1 à 8. Marc chapitre 1, versets 1 à 8. C'est ainsi qu'a commencé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. J'enverrai mon messager devant toi, il te préparera le chemin. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, « Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. » Jean parut. Il baptisait dans le désert. En effet, il appelait les gens à se faire baptiser pour indiquer qu'ils changeaient de vie, afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Tous les habitants de la Judée et de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain, en reconnaissant leur péché. Jean était vêtu d'un vêtement de poil, de chameau, maintenu autour de la taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et voici le message qu'il proclamait. Après moi va venir quelqu'un qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser devant lui pour dénouer la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. Je prie. Seigneur Dieu, nous voulons vraiment te remercier pour ce témoignage unique que tu nous laisses de ta venue dans le monde et de ce que tu as fait. Et Seigneur, je te prie vraiment que ce matin nous puissions être à l'écoute de ce que tu as à nous dire, que nous puissions nous rendre compte de la chance que nous avons de pouvoir lire ces mots que certaines personnes dans le monde ne peuvent pas encore lire, car elles n'ont même pas encore la traduction qui est arrivée chez eux. Nous pouvons les lire, Seigneur, et nous te prions de nous parler ce matin, que ton Saint-Esprit nous éclaire sur ta parole et que toute la gloire te revienne. Amen. Alors Marc commence donc son évangile en nous parlant de Jean-Baptiste. L'évangile de Jésus-Christ ne commence pas avec la venue de Jésus, mais avec la venue de Jean. Et on a tendance à oublier le message de Jean sous prétexte que l'on a maintenant Jésus. Pourtant, on voit bien commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, et au verset 4, Jean parut. Voici comment commence l'œuvre la plus importante, la plus grande qui a été faite sur la terre, par la venue de Jean-Baptiste. Alors nous avons trois très bonnes raisons de connaître et de comprendre le message que Jean-Baptiste laisse. La première bonne raison, c'est que si l'on ne connaît pas le Christ, Jean-Baptiste est celui qui vient préparer le chemin pour que nous le connaissions. La deuxième très, très bonne raison, c'est que si l'on connaît le Christ et que l'on veut le faire connaître, Jean-Baptiste est celui qui vient préparer le chemin pour que les autres connaissent Christ. Et la troisième raison, c'est que quel que soit notre état, Christ revient bientôt. Et nous sommes dans la même situation que les auditeurs de l'époque. Le monde est rempli de gens qui attendent la venue du Christ et de gens qui ne l'attendent pas. Le message de Jean-Baptiste est toujours d'actualité pour nous, pour cette raison. Alors ce matin, je vais vous faire un message en 3D. J'espère que vous avez amené vos lunettes. Sinon, il y en a en vente à l'entrée de l'église, 1,50 €. C'est pas trop cher. Non, c'est gratuit ce matin, mais c'est quand même en 3D. Alors déjà, ce message, je lui ai donné un titre qui est celui-ci. Danger, faites demi-tour. C'est le titre de mon message. Jean-Baptiste nous annonce que le Fils de Dieu sera bientôt là et que les hommes ne sont pas prêts à le recevoir. Ils doivent donc se préparer en faisant un demi-tour spirituel et en prenant une décision ferme. Les 3D pour ce matin, c'est tout d'abord le danger pour lequel Dieu envoie Jean-Baptiste. Ensuite, nous verrons la direction que Jean-Baptiste nous invite à prendre. Puis il sera temps de prendre une décision par rapport à ce message. Alors commençons avec le danger. Verset 2. Selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe, « Voici, j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. » Dieu envoie Jean-Baptiste préparer la venue de son Messie en Judée, près de Jérusalem, la ville du peuple élu de Dieu. Ça fait des milliers d'années que Dieu a promis son Messie, notamment par la bouche des prophètes Ésaïe et Malachie que Marc cite ici. Mais on lit également, par exemple, en Jérémie 23, versets 5 et 6. « Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera le droit et la justice dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. En Ésaïe 11, versets 1 et 2, « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et le rejeton de ses racines fructifiera. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Le peuple sait que le Messie doit venir. En fait, le peuple attend le Messie, comme le dit l'expression. Alors pourquoi envoyer un messager pour préparer son chemin? Vous n'êtes jamais posé cette question? Alors je regardais il y a quelque temps un documentaire sur la libération de Paris en 1944. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais... C'était passionnant. Pendant 2 mois, les Parisiens ont attendu que l'armée américaine vienne libérer la ville. Seulement, l'armée, elle n'arrivait pas. Parce que Paris n'était pas un objectif stratégique pour l'armée. Ils avaient choisi même de la contourner. Le peuple de Paris n'en pouvait plus d'attendre. Si bien qu'ils ont pris eux-mêmes les armes pour commencer à chasser l'ennemi. Seulement, ils n'avaient pas assez de munitions, pas assez d'équipements, et ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Donc ils ont dû attendre, jusqu'à ce que finalement, du 19 au 25 août 1944, il y a bientôt 70 ans, ce soit une division de l'armée française qui vienne les libérer. Le documentaire montrait les scènes de liesse dans la capitale, comme il n'y en a jamais eu. Les gens chantaient, dansaient dans les rues. On voyait des images tournées à l'époque. J'avais jamais vu ça. L'armée n'a pratiquement rien eu à faire. Ils étaient accueillis comme des héros. Pourquoi ça ne se passe pas comme ça quand le Messie arrive? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ, ce libérateur tant attendu, n'est pas accueilli en héros, et a besoin de quelqu'un pour venir préparer son chemin? Pourquoi envoyer Jean-Baptiste? Et bien, la réponse est assez tragique. Le peuple élu n'est pas prêt à recevoir ce Messie, son libérateur. Le peuple élu n'est pas en état de recevoir Jésus. Alors Jean-Baptiste est envoyé. Et où va-t-il? On le voit au verset 3. Dans le désert de Judée. Alors, Christina, est-ce que tu peux montrer la photo que je t'ai donnée? Quand on lit le mot désert, on s'imagine une grande étendue de sable avec seulement des dunes, genre Sahara. Mais ce n'est pas du tout le cas du désert de Judée. Alors, j'aimerais que vous voyiez à quoi ça ressemble. Ça, ce n'est pas un désert. Sinon, je vais vous le décrire en attendant que ça arrive. Le désert de Judée, c'est un désert montagneux, rocailleux, avec des vallées, des montagnes, des escarpements. C'est vraiment un terrain très difficile à traverser. Et c'est ce paysage que Jean-Baptiste a devant les yeux. C'est pas grave, on le verra pas, je crois. Mais c'est ce paysage que Jean-Baptiste voit au moment où il prêche. Un terrain rocailleux, montagneux, difficile à traverser. Et c'est vraiment l'illustration parfaite du cœur des gens auxquels s'adresse Jean-Baptiste. Et il a en tête, voilà. Et il a en tête la mission que Dieu lui a confiée et qu'on lit en Ésaïe 40. Que toute vallée soit abaissée, que toute montagne et toute colline, pardon, que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. Alors la gloire du Seigneur se dévoilera et tous la verront ensemble. C'est la bouche du Seigneur qui parle. Jean-Baptiste vient préparer le cœur des Israélites à recevoir Jésus. Ce qui est manquant spirituellement doit être comblé. Ce qui fait obstacle, l'orgueil, la propre justice, doit être abaissé. Car il y a un grand danger. Le danger, c'est que la venue du Messie, tant attendue, au lieu d'être une libération, une liesse, soit une condamnation pour les hommes, car ils ne sont pas prêts à l'accueillir. C'est ça le danger. Lisons ensemble le passage parallèle en Luc, chapitre 3, versets 4 à 9. Luc 3, 4 à 9. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait écrit dans son livre. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les voies tortueuses deviendront droites, les chemins rocailleux seront nivelés, et tous les hommes verront le salut de Dieu. Jean disait à ceux qui venaient en foule se faire baptiser par lui, « Espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester ? Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé. Ne vous contentez pas de répéter en vous-même, « Nous sommes les descendants d'Abraham. » Car regardez ces pierres. Je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Attention, la hache est sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Voilà, le message est très clair. Dieu est en colère contre l'homme. Ceux qui se croient à l'abri de la colère ne sont pas prêts à recevoir le Messie. Ils seront coupés et jetés au feu, nous dit le texte. Parmi ceux qui venaient à Jean-Baptiste, certains étaient persuadés d'être justes parce qu'ils étaient juifs. Ils étaient enfants d'Abraham. Ils se pensaient donc à l'abri de la colère de Dieu. Jean-Baptiste, vous avez vu comment il les appelle. Une race de vipères. Que dirait Jean-Baptiste s'il venait prêcher aujourd'hui que le Messie arrive ? Moi, je pense qu'il me dirait déjà, attention, Johan, tu te crois juste parce que tu vas dans une église et que tu ne fais rien de malhonnête. Que dirait Jean-Baptiste au monde ? Vous vous croyez juste parce que vous essayez d'être bon ? Vous pensez être à l'abri de la colère parce que vous n'avez jamais tué personne ? Parce que vous donnez de l'argent pour la faim dans le monde ? Parce que vous ne fraudez pas le fisc, comme tous ces politiciens qu'on voit à la télé ? Parce que vous allez à l'église régulièrement ? Que vous dirait-il à vous, personnellement ? Quelle est la montagne d'orgueil qui doit être aplanie ? Quel est le vide spirituel qui doit être comblé ? Beaucoup de gens sont persuadés qu'ils sont à l'abri de la colère parce qu'ils ne sont pas si mauvais que ça, au fond. Le danger est toujours aussi présent aujourd'hui chez tout homme de ne pas être prêt à la venue du Sauveur. Jean-Baptiste est là pour que nous nous rendions compte de ce danger. Qu'allons-nous faire ? D'ailleurs, c'est la question que la foule pose à Jean-Baptiste, Luc 3, verset 10. Que devons-nous faire ? Ce que nous devons faire, c'est suivre la direction que nous indique Jean-Baptiste. Lisons Marc, chapitre 1, les versets 4 et 5. Jean parut, il baptisa dans le désert. En effet, il appelait les gens à se faire baptiser pour indiquer qu'ils changeaient de vie, afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Tous les habitants de la Judée et de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain, en reconnaissant leurs péchés. Lisons également Luc 3, versets 11 à 14. Même verset 10, Luc 3, verset 10. Les foules lui demandèrent alors, « Que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Si quelqu'un a deux chemises, qu'il en donne une à celui qui n'en a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il partage avec celui qui n'a rien. » Il y avait des collecteurs d'impôts qui venaient se faire baptiser. Ils demandèrent à Jean, « Maître, que devons-nous faire ? » ?»« N'exigez rien de plus que ce qui a été fixé, leur répondit-il. » Les soldats le questionnèrent aussi. « Et nous, que devons-nous faire ? » ?»« N'extorquez pas d'argent à personne et ne dénoncez personne à tort. Contentez-vous de votre solde. » Jean-Baptiste appelle les gens à faire un demi-tour, à reconnaître le danger qui est de celui de se croire juste et prêt pour le salut et à prendre une autre direction, à changer de vie. Au lieu de la direction de l'orgueil, du sentiment d'être juste, il leur indique celle de l'humilité, de la repentance. Et il les baptise lorsqu'ils reconnaissent leurs péchés. Parfois on se dit, ça c'est pas vraiment pour moi. Je suis déjà passé par là, j'ai demandé pardon à Dieu pour ce que j'ai fait de mal. Je ne suis plus condamné. Je n'ai plus besoin de repentance. Il se peut que nous ne ressentions plus la douleur et l'humiliation du péché dans notre vie. Car on pense être au-delà de ça. C'est vrai, Dieu nous a pardonné après tout. Si ça vous arrive, sachez que la repentance n'est pas seulement pour la conversion. Qu'est-ce que la repentance ? La meilleure manière de comprendre la repentance, c'est de lire comment la Bible en parle. Et nous avons un texte en psaume 32 où nous voyons un homme qui passe par la repentance. Il s'agit de David. Psaume 32, nous allons lire pour commencer versets 1 à 4. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de mauvaise foi. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse, à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'appesantissait. Ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Les versets 3 et 4 nous montrent une première étape de la repentance. On y voit la douleur et l'humiliation que ressent David devant sa propre faute. J'apparente un peu cette étape à un deuil. C'est une situation qu'on est obligé d'affronter, mais on ferait tout pour ne pas avoir à l'affronter. La première étape de la vraie repentance, c'est lorsqu'on en arrive à avoir ce sentiment-là vis-à-vis de notre propre péché. On aimerait qu'il n'existe pas. On aimerait qu'il soit loin de nous, il nous fait mal, il nous rend triste, il nous rend honteux. On nomme souvent cette étape la conviction de péché. Et puis, nous lisons le verset 5, où David dit « Je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit « Je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. » Ça, c'est la deuxième étape. Après l'accablement, David finit par reconnaître sa faute devant Dieu. Et ça rejoint tout à fait notre texte de Marc, où nous voyons au verset 5 que les gens se faisaient baptiser par Jean en reconnaissant leurs fautes. Lorsque la repentance est véritable, elle s'accompagne alors de la volonté d'abandonner le mal. Le changement de vie est visible. Jean-Baptiste nous dit en Luc 3, verset 8, « Produisez des fruits dignes de la repentance. » En Actes 26, verset 20, nous lisons aussi Paul qui prêchait « La repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Est-ce que vous commencez à voir pourquoi Dieu envoie son prophète Jean-Baptiste pour préparer la venue du Messie? Dieu souhaite réveiller dans nos âmes le sentiment du péché et nous faire désirer ardemment le baptême de la repentance. Il souhaite que nous abandonnions tout espoir de guérir par nous-mêmes de notre propre condition, que nous fassions disparaître sous l'eau notre propre personne. Qui n'a pas besoin de repentance dans sa vie? Est-ce que vous avez déjà pris le temps de considérer votre propre faute, de la reconnaître devant Dieu et de décider de changer? Peut-être vous dites-vous, mais je ne suis pas capable de changer. Alors laissez cette question de côté. Elle viendra de toute façon. Mais la première chose à faire, c'est de prendre le deuil de notre propre faute, de venir devant Dieu, de reconnaître notre faute, la confesser et avoir la volonté de changer. Même lorsque nous sommes passés par la conversion, il peut nous arriver d'avoir un manque de repentance dans nos vies. On peut laisser un péché nous ralentir sur le chemin. On peut s'habituer au péché et ne plus le voir tel qu'il est, comme quelque chose qui attriste Dieu, quelque chose qui fait honte. Alors la Bible nous appelle à persévérer dans la repentance. Et si vous ressentez ce désir, c'est vraiment la grâce de Dieu qui opère en vous. En fait, c'est totalement par grâce que Dieu envoie Jean-Baptiste pour faire cet ajustement dans le cœur des hommes, ce demi-tour spirituel, pour que nous évitions le danger de passer à côté de la venue du Sauveur, pour que nous regardions dans la bonne direction au moment où il sera là, au moment où il nous appelle. Alors nous en arrivons à la troisième partie de ce message. Car le message de Jean-Baptiste ne s'arrête pas là. En fait, tout ceci, ce n'est qu'un prélude à quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus extraordinaire que Dieu s'apprête à faire pour l'homme. Lisons les versets 6 à 8. Jean était vêtu d'un vêtement de poil de chameau maintenu autour de la taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et voici le message qu'il proclamait. « Après moi va venir quelqu'un qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser devant lui pour dénouer la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. » Jean-Baptiste, ne l'oublions pas, est là pour préparer le cœur de l'homme à la venue du Messie. Il est un prophète de Dieu, un grand homme. On voit que des foules entières venaient à lui. Sûrement, il aurait pu être très riche, Jean-Baptiste. Il avait beaucoup de charisme. Mais pourtant, il a choisi de vivre dans la pauvreté et la simplicité. Parce que son seul but, c'est que les hommes reconnaissent Christ. Il a compris que Christ vaut infiniment plus que tout ce qu'il peut trouver sur cette terre. Il a compris qu'il n'est rien à côté du Messie. Amener quelqu'un à la repentance, comme il le fait, c'est inutile s'il n'y a pas Christ derrière. Dieu souhaite que nous noyons dans l'eau tout espoir de nous sauver nous-mêmes. Mais c'est pour nous donner un nouvel espoir. Et cette fois, un espoir bien fondé. parce qu'il est mis dans une personne qui ne défaille pas. La repentance, le changement de vie, le demi-tour spirituel, n'est pas suffisant pour ôter notre péché. Celui qui ôte notre péché, c'est Jésus. Et Jean-Baptiste est là pour nous amener à prendre la décision de suivre Jésus. Nous lisons en Jean chapitre 1, versets 29 à 33. C'est toujours le message de Jean-Baptiste. Le lendemain, Jean, verset 29, le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. C'est de lui que je vous ai parlé lorsque je disais, « Un homme vient après moi, il m'a précédé, car il existait avant moi. » Moi non plus, je ne savais pas que c'était lui. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour le faire connaître au peuple d'Israël. » Jean-Baptiste rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui. » Je ne savais pas que c'était lui, mais Dieu, qui m'a envoyé baptisé dans l'eau, m'avait dit « Tu verras l'Esprit descendre et se poser sur un homme. C'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit. Or cela, je l'ai vu de mes yeux et je l'atteste solennellement. Cet homme est le Fils de Dieu. » La repentance ne change pas le cœur, qui est toujours coupable, mais la repentance nous permet d'accueillir Jésus, qui, lui, va changer nos cœurs. C'est lui qui ôte le péché et répand ensuite son esprit. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, nous dit Jean-Baptiste, mais lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. La sainteté, ça signifie l'absence de toute souillure. Quelque chose qui est saint est parfaitement séparé de tout ce qui est souillé, comme les deux pôles d'un aimant. Or, l'Esprit de Dieu, il est totalement saint, parfaitement saint. Ainsi, il est impossible qu'un homme pécheur, souillé par le péché, soit plongé dans l'Esprit de Dieu. C'est totalement impossible. Pourtant, c'est ce que va faire Jésus. Et pourquoi il peut le faire? Parce qu'il est celui qui ôte toute souillure, qui enlève tout péché parfaitement. Il vient réaliser la promesse que Dieu a faite en Ézéchiel 36, versets 27 à 29. « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je vous sauverai de toutes vos souillures. » Ainsi, le baptême que donnait Jean était symbolique. Mais le baptême qu'offre Jésus ne l'est pas. C'est le véritable Esprit de Dieu dans lequel il plonge les gens. Et c'est cela que nous offre Jésus. Un cœur dans lequel toute souillure a été enlevée, a été brûlée, et où il ne subsiste que ce qui est bon, ce qui est pur. Alors maintenant, vous vous posez peut-être la question, mais qu'est-ce que ça signifie que Jésus baptise dans le Saint-Esprit? Est-ce que moi j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit? Est-ce que j'ai besoin d'être baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que demander pardon à Dieu, ça ne suffit pas, finalement? Ces questions sont vraiment cruciales. Et Jean-Baptiste souhaite que nous comprenions et que nous sachions y répondre chacun personnellement. Moi, nous dit-il, je suis juste le gars qui baptise dans l'eau. Je ne suis rien. Je suis une voix. Lui, c'est celui qui vous plongera dans l'Esprit de Dieu lui-même. Il est celui qui donne la vie. Vous souhaitez être changé, être libéré, être purifié, être lavé de vos fautes? C'est Jésus, et Jésus seul, qui le fera. Et comprenez bien, ce message est pour tout le monde. Nous avons tous besoin d'être plongés en Dieu, d'être submergés de son esprit. Vous vous sentez piégé par le péché dans votre vie ? C'est Jésus qui peut vous plonger dans l'Esprit Saint et vous libérer. Vous avez besoin de courage pour affronter une situation difficile. C'est Jésus qui peut vous plonger dans son esprit, vous fortifier. Vous vous sentez sec, sans vie spirituellement, avec un grand vide. C'est Jésus qui peut vous submerger de l'Esprit de Dieu. Afin que des fleuves d'eau vive coulent de votre sein, comme nous dit l'Écriture. Vous n'avez plus de joie ? Jésus peut vous remplir de son esprit parfaitement et vous donner la joie. Votre situation familiale est un cauchemar. Jésus peut vous remplir de son esprit, vous aider à mettre les choses en ordre, vous redonner de l'amour pour votre conjoint. Vous êtes blessé, vous avez été blessé et vous avez du mal à vous en remettre. Jésus peut vous plonger en Dieu et vous aider à guérir. Vous avez besoin de pardonner et vous en êtes incapable. Jésus peut vous plonger dans l'Esprit de Dieu, vous aider à pardonner parce qu'il est celui qui fait grâce parfaitement. Vous avez besoin d'être sauvé parce que vous savez que votre vie mène nulle part, sinon droit en enfer. Jésus est celui qui peut vous plonger en Dieu, vous assurer une vie éternelle à ses côtés. Tout cela demande de notre part que nous fassions demi-tour, que nous fassions le deuil de notre propre péché et que nous le reconnaissions devant Dieu. Tout cela demande d'arrêter de nous justifier et de confier notre justification à Jésus en lui demandant de laver nos péchés, de nous plonger dans l'Esprit Saint. Alors êtes-vous prêt à faire ce demi-tour ? Êtes-vous prêt pour accueillir le Messie ? Pour lui laisser le champ libre dans votre vie. Je vais prier. Seigneur Dieu, merci parce que dans ta grâce, tu souhaites venir nous changer nos cœurs, Seigneur. Venir nous aider à faire ce demi-tour pour regarder dans la bonne direction et pour être prêt à recevoir ton Fils, le Sauveur, le Libérateur, et être dans la joie et de le recevoir, Seigneur. Père éternel, je te prie vraiment que ce message soit une réalité dans nos vies, Seigneur. Que nous sachions venir à toi, regarder à toi, et ne pas être distraits par notre orgueil, par notre sentiment de pouvoir faire les choses par nous-mêmes, par notre aveuglement sur le danger que nous courons. Seigneur, nous voulons venir à toi, recevoir ton esprit que toi seul tu peux donner. Je te prie, Seigneur, si vraiment il y a des personnes ici qui souhaitent faire ce demi-tour et être plongées dans ton esprit, je te prie, Seigneur, de les accueillir, de les entourer de tes bras comme tu entourais les enfants qui venaient à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, s'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes, qui ne souhaitent pas faire faire ce demi-tour. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Et je te prie dans ta bonté et dans ta grande patience d'attendre, Seigneur, et de continuer à les appeler à toi. Je te remercie, Seigneur, pour ta grâce toute puissante, ta grâce qui sauve, qui couvre une multitude de péchés, qui nous aide à pardonner, à guérir, à aller de l'avant, à mettre les choses en ordre dans notre vie, Seigneur. Tout ça, c'est l'action de ton esprit que tu nous donnes dans nos vies. Et tout cela, c'est dans le but que nos vies te glorifient, Seigneur Jésus. Sois béni, sois loué encore pour cette parole que tu nous laisses et aide-nous à la mettre en pratique dans nos vies, Père. Amen.